418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Je vous souhaite un excellent mercredi, les amis. Comment ça se passe sur la route, Max?
C'est encore assez compliqué, entre autres pour passer de la rive sud à la rive nord. 20 Est, ça s'est quand même beaucoup amélioré là. Par contre, en arrivant par la Beauce, mettons, là, par la 73 à partir de rue Beaulieu, ça bloque. 20 Ouest, c'est surtout entre Chemin des Îles et Taniatax, Tau Rouge. 40 Est, ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières minutes. Même chose pour Duplessis Sud, où il y avait un char en feu un peu plus tôt. Capitale Est, entre Henri IV et l'approche de Pierre-Bertrand, c'est encore au rouge. Capitale Ouest, un peu avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne, au ralenti également. Laurentienne Sud, vers rue de la Faune, c'est au ralenti.
Donald Trump, qui était face aux gens de l'ONU et qui a eu un discours quand même assez incroyable concernant le conflit en Ukraine, il a mentionné qu'il pensait que ça allait se régler plus rapidement en raison de ses relations avec Vladimir Poutine. Mais là, il y a d'autres entrevues, c'est assez intense. Donald Trump qui dit « Écoute, je pense que l'Ukraine pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin.
Conquérir des territoires russe, on va les aider, on va les armer. » Et il a même dit à l'OTAN, vous savez quoi? Quand il y a un avion russe qui passe dans un espace aérien protégé, abattez-le.
Ouais, puis il a fait il a fait la morale à d'autres pays en disant, ben là, on veut encourager l'Ukraine, mais vous autres, vous achetez du pétrole russe. Ben, hâte de savoir ce que notre spécialiste en pense. C'est François Audet, avec qui on a la chance de jaser. Il est directeur à l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour.
Oui, bonjour.
Très content de vous jaser. Est-ce que vous attendiez à ce volte-face-là, qui est assez abrupt, là, concernant Donald Trump et sa vision des choses entre l'Ukraine et la Russie pour ce qui est de la guerre?
Ouais, mais je pense qu'on a tous compris là, qu'on pouvait toujours s'attendre à des retournements de situation concernant le président américain, et ce, pour à peu près tous les sujets. Donc, je crois qu'il faut pas se surprendre. Évidemment, le changement de cap, en tout le moins dans son discours, comme vous l'avez mentionné en introduction, il est en rupture avec ce qu'on avait entendu, et surtout par rapport à la posture américaine règle générale et depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc on se souviendra évidemment même de la première visite de Zelensky à la Maison-Blanche, hein, dans laquelle ça avait été évidemment un moment embarrassant de diplomatie. Il avait pointé du doigt l'Ukraine comme étant presque le responsable de cette guerre-là,
qui n'avait
pas en main les fameuses cartes là pour gagner la guerre. Quelques mois plus tard, sans que rien n'ait changé sur le terrain, ni en termes de soutien militaire dans l'absolu, ben là, tout d'un coup, il dit, ben là, finalement, oui, il pourrait effectivement gagner. Alors, c'est évidemment un changement dans le discours. Dans les faits, ça change pas grand-chose. Ça démontre quand même, puis c'est juste ça, je crois qu'il faut vraiment retenir, que les Américains sont prêts à soutenir l'Ukraine. Ça, c'est, de ma perspective, assez rassurant. Et d'autre part aussi, ça montre que une rupture dans la relation entre Trump et Poutine, parce que il y avait crié tout haut et tout fort, et surtout suite à la fameuse rencontre en Alaska, que c'était son bon ami et que Poutine allait respecter ses engagements et ses promesses, que évidemment il n'a pas fait depuis plusieurs années. Poutine, c'est évidemment la personne en qui il faut pas faire confiance. Alors je pense que son état-major, là je parle de l'armée américaine, a probablement dit ou convaincu le président américain que il se passait rien malgré les négociations ou les efforts de diplomatie qui avaient été engagés.
Est-ce que la position de Poutine est faible? Parce que Donald Trump, dans son tweet, il dit « Bon, Poutine et la Russie ont de gros problèmes économiques. Dans tous les cas, je souhaite le meilleur aux deux pays, l'Ukraine et la Russie. Nous allons continuer à fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tout le monde. » Est-ce qu'on peut craindre le pire? Est-ce que la Russie pourrait se revirer puis aller voir les Chinois ou encore la Corée du Nord pour essayer d'accentuer un peu plus sa guerre contre l'Ukraine?
C'est vrai que la Russie souffre économiquement de manière importante. Militairement, là-dessus, le président américain a quand même raison. On avait, au départ, on se souviendra, les premières semaines d'invasion, on croyait l'Ukraine vaincue en quelques semaines. Deux ans plus tard, certes, la Russie a gagné du territoire, mais l'Ukraine s'est avérée un ardent défenseur de son territoire. Évidemment, le soutien européen et américain aide considérablement, mais c'est sûr que ça démontre que l'armée russe et la capacité militaire russe n'est pas si importante que ça. Évidemment, ils n'utilisent pas d'armes nucléaires, on le comprend bien, mais dans une guerre normale, traditionnelle, de haute intensité, l'armée russe est très, semble très limitée. Là, ce qu'on voit parallèlement, puis ça, il faut garder ça dans un œil, dans notre troisième œil, je dirais, c'est ce que la Russie tente de faire un peu partout dans le ciel européen. Vous avez vu, les auditeurs l'auront sûrement lu aussi, des drones qui sont envoyés un peu partout, notamment en Estonie, on a peut-être au Danemark, évidemment en Pologne. Et ça, c'est clairement une tentative de tester la capacité militaire de l'OTAN, tester la coalition de l'OTAN, pour voir si les États-Unis vont effectivement continuer à soutenir l'OTAN, mais surtout de semer le trouble, parce que évidemment, c'est là, c'est vraiment une relation directe entre la Russie et l'OTAN, et ça, c'est un peu du jamais vu. Quand ça passe par une guerre interposée, je le dis entre guillemets, avec l'Ukraine, qui fait pas partie de l'OTAN, évidemment, et tout le sujet est là, ben évidemment, c'est des intermédiaires. Mais quand la Russie envoie des drones au-dessus du territoire européen et des pays de l'OTAN, il y a un article très clair qui dit, ben si vous attaquez un des pays de l'OTAN, tout le monde y répond, et c'est là qu'on en est rendu. Alors, pourquoi la Russie fait ça? Qu'est-ce qu'il tente de faire, effectivement? Et c'est sûr que là, ça, il y a un risque de dérapage à ce niveau-là.
Mais la Chine et la Corée du Nord, est-ce qu'ils peuvent être encore plus présents dans le conflit, quoique la Chine est très, très gênée présentement?
Ouais, non. Ben en fait, je pense que la Chine, elle a pas d'ambition à caractère militaire. Elle veut évidemment avoir une influence géopolitique, économique. Mais la Chine et les États-Unis ne veulent pas rentrer en guerre militairement parlant, ce qui est pas du tout le cas de Poutine, qui est vraiment un chef des forces armées, alors que le président chinois est un chef plutôt politique, idéologique, et il veut remplacer les États-Unis comme puissance économique mondiale. Alors c'est pas du tout les mêmes stratégies. Concernant la Corée du Nord, ben évidemment, bon, c'est un pays qu'on appellerait rogue, en bon français, et c'est pas la Corée qui va changer quoi que ce soit. Ils ont quelques armes nucléaires, ils envoient de temps en temps des pétards là, dans l'océan, ils ont envoyé une force militaire armée pour soutenir la Russie. On parle de quelques milliers de militaires, mais somme toute, c'est pas ça qui va changer la géométrie du conflit actuel.
Donald Trump devrait-il justement se ranger davantage avec l'OTAN comme il l'a fait hier pour cesser les menaces russes?
Je pense que évidemment les coalitions auxquelles on était habitué avant que Trump revienne au pouvoir sont quand même relativement changées là. Donc on a vu que les Nations Unies hier pendant son discours et depuis quelque temps sont très fragilisées. Donc les coalitions sont fragilisées. L'OTAN reste quand même assez solide malgré tout. Alors parce que les Américains le fameux message que vous avez lu et qu'on essaie de décoder hier le démon. Je pense que les États-Unis sont prêts à soutenir l'OTAN dans la mesure où l'OTAN paye ces armes-là. Il est là le deal aussi, c'est économique.
Oui, qu'on augmente, là, comme le Canada le fait, là, qu'on vient d'augmenter notre contribution à l'OTAN. Là.
Exactement. Fait que tous les pays de l'OTAN augmentent significativement leur capacité financière et militaire, ce qui fait que au regard de tout ça, les États-Unis ont une moins grande représentation, mais ils sont quand même le producteur d'armes le plus puissant de la planète et ils vont continuer encore aujourd'hui à être la puissance armée la plus importante. Alors, c'est sûr que cette coalition de l'OTAN qui chapeaute un peu le territoire même ukrainien, c'est-à-dire que l'OTAN n'est pas impliqué directement, mais on soutient quand même dans l'armée. Il est important la stabilité de l'Europe et il est important pour pas qu'on rentre dans une troisième guerre mondiale parce que c'est ça que tout le monde veut éviter. Puis je pense que quoi qu'on en dise, je pense pas que le président américain non plus veut ça, évidemment. Alors lui-même, il voit ça comme de manière très transactionnelle. Et d'ailleurs, la fin de son message, il était incroyable, ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est fascinant.
Ben justement, j'allais là, est-ce que c'est très transactionnel aussi en terminant de demander à l'Europe d'arrêter d'acheter du pétrole russe pour acheter justement du pétrole américain?
Oui, c'est un autre élément qui est pas très vrai dans ce qu'il a dit, c'est que oui, il y a encore effectivement de l'achat de gaz, notamment de la part de la Turquie, je crois un autre pays d'Europe de l'Est, mais c'est pas massif, c'est pas important. C'est sûr que c'est paradoxal, ça va peut-être faire une pression pour qu'on arrête cet achat-là. C'est-à-dire qu'on peut pas financer l'achat de pétrole qui supporte l'économie russe à attaquer l'Europe par la suite. C'est évidemment, embarrassant. intéressant et paradoxal, mais c'est pas majeur non plus. C'est vraiment un petit chiffre dans l'absolu du gaz russe et dans l'économie du pétrole mondial, évidemment. Alors, donc voilà.
Je dois vous laisser aller travailler, M. Audem. C'est toujours très pertinent à chaque fois qu'on a l'occasion de vous jaser. Puis les auditeurs vous apprécient beaucoup. Merci.
Ben, ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Bye-bye. François Audet, qui est directeur à l'Institut d'études internationales de Montréal. Il était aussi directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. On fait une courte pause et on vient. Marceau le